L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 20 août 1940. Il est 17h31. Il fait une chaleur si écrasante que la vie s'est arrêtée pendant les 3 heures les plus chaudes de l'après-midi sur Coyoacán, faubourg résidentiel de Mexico. Le quartier commence mollement à reprendre un semblant d'activité quand retentit un cri perçant. Un cri si déchirant qu'on l'aurait entendu dans tout Mexico. Ce cri, c'est celui d'un homme qu'on assassine. Nous sommes le 20 août 1940, 17h31. C'est l'heure H de mon histoire. Coyoacán. C'est une petite banlieue plutôt huppée, située au sud du Grand Mexico. Ce quartier bohème est réputé pour ses rues pavées et son architecture coloniale. En ce début des années 40, intellectuels et artistes y affluent pour organiser des manifestations contre la guerre ou tout simplement pour venir contempler la splendide maison du couple de peintres Frida Kahlo et Diego Rivera. Le couple d'artistes est justement sorti lorsque retentit ce cri perçant de l'après-midi du 20 août 1940. Pourtant, ils auraient pu l'entendre. Leur maison se situe à quelques rues de celle dans laquelle se déroule l'homicide. En effet, quelques années plus tôt, s'est installé dans une splendide demeure bordée d'un jardin luxuriant, celui que dans le quartier on appelle « le Vieux ». Le Vieux, c'est en réalité l'une des figures les plus importantes du communisme russe du début du siècle et de la révolution de 1917. Léon Trotsky. Oh, bien sûr, ça a fait pas mal de bruit lorsque le couple Trotsky est venu poser ses bagages dans le coin. Les réseaux communistes de Mexico à cette époque sont partagés entre deux branches. Les staliniens, adeptes du petit père des peuples, actuellement au pouvoir en Russie, et les partisans de son grand rival, Léon Trotsky, qui, depuis plus de 10 ans, ne cesse de publier pamphlet sur pamphlet, dans lesquels il remet en question la légitimité de Staline et critique son régime autoritaire. Ni le Vieux, ni sa femme Natalia n'avaient pourtant eu la volonté de venir s'installer au Mexique avant tout ça. À vrai dire, ce pays au climat chaud et humide, dont la cuisine se base principalement sur l'utilisation du maïs, de haricots et de piments, leur semblait un dépaysement trop important à l'égard de leur Russie natale. Mais le couple n'avait pas eu le choix. Dès la mort de Lénine, les divergences idéologiques s'étaient accrues entre Trotsky et Staline. Ce dernier accusant Trotsky de vouloir faire perdurer la révolution et de l'exporter à l'étranger. En Russie, des émeutes se réclamant du nom de Trotsky avaient commencé à éclater. Staline, de plus en plus paranoïaque, ne pouvait plus supporter le danger que représentait l'idéologie trotskiste et avait donc décidé, dans un premier temps, de l'expulser du RSS et de l'envoyer en Turquie. Seulement, Trotsky n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Le soviet est un intraitable. Dans les milieux révolutionnaires, on dit de lui qu'il ne cède jamais. Depuis la Turquie, il décide donc de lancer son offensive et de diffuser dans le monde entier une propagande anti-stalinienne. Héros de la révolution de 17, Trotsky possède encore beaucoup de soutien chez les communistes. Ses bulletins d'opposition récurrents trouvent donc des lecteurs partout à travers le monde. Cette insurrection met en fureur son ennemi de toujours. Pour Staline, Trotsky devient l'ennemi public numéro 1 de l'Union soviétique. Il est prêt à tout mettre en place pour faire assassiner le vieux révolutionnaire. Pour les différents pays d'Europe, qui à cette période entendent maintenir un lien diplomatique avec la Russie de Staline, accueillir Trotsky n'est pas un bon calcul. C'est ainsi que le couple Léon et Natalia vont inlassablement errer d'exil en exil, demandant d'abord l'asile à l'Allemagne, puis à l'Angleterre, séjournant parfois pas plus d'une semaine dans certains pays, finissant toujours par en être chassé. En décembre 1936, alors qu'il neige sur Oslo, Léon et Natalia Trotsky, désormais jugés indésirables en Norvège, doivent quitter le pays et embarquent sur un minéralier direction le pays de la dernière chance, le Mexique. Si le Mexique est un refuge, c'est grâce à l'intervention d'un couple de peintres mexicains que nous avons déjà évoqué, Frida Kahlo et Diego Rivera. Le couple adhère à l'idée révolutionnaire de Trotsky depuis plusieurs années. Alors, lorsqu'ils apprennent que de nombreux pays ont rejeté leur demande d'asile, ils se décident à intervenir en faveur des Trotsky. Diego Rivera, proche du pouvoir, convainc le président en place à cette époque. C'est un antifasciste qui a choisi d'ouvrir le pays aux réfugiés politiques qui lui demanderaient l'asile. Et le président donne son accord à condition que Trotsky n'intervienne pas dans les affaires intérieures du Mexique. À leur arrivée à Mexico en janvier 1937, Léon et Natalia sont accueillis par Frida, seule. Diego Rivera étant hospitalisé pour des problèmes oculaires. Frida est amusée par l'allure démodée du couple soviétique. Natalia porte un tailleur, tandis que Léon arbore une magnifique casquette en tweed par 25 degrés. Le couple Kahlo-Rivera possède une splendide maison dans le quartier bohème de Coyoacán. Les Trotsky sont accueillis royalement dans la Casa Azul, logeant dans la chambre qui donne sur le jardin, par souci de sécurité pour Léon. Malgré son style vieillot, le vieux révolutionnaire est séduisant et charismatique et ne laisse pas Frida insensible à ses charmes. De son côté, la jeune peintre, qui leur sert de guide et d'interprète à Mexico, intrigue le vieux par sa vivacité d'esprit. Sa propre femme, éreintée par 4 mois de voyage et 7 années d'errance, lui semble bien terne à côté de la jeune Frida. C'est ainsi qu'après plusieurs mois dans la Casa Azul, le simple flirt de Frida Kahlo et Léon Trotsky se transforme en une véritable liaison. Mais il ne faudra que peu de temps à Diego pour s'en apercevoir. Foudrage. Se sentant trahi par son hôte qu'il avait recueilli sous son toit, il chasse le couple Trotsky de chez lui. Frida, dans un dernier cadeau d'adieu, offrira à Léon un autoportrait qu'il emportera avec lui. Après s'être maintes fois excusé, Léon finit par obtenir le pardon de sa femme qui, de toute façon, n'a plus d'autre choix que de suivre son mari. Les Trotsky se décident donc finalement à acheter une maison. À l'angle de la calle Viena et de la calle Morelos se trouve une splendide maison à l'allure coloniale. Léon et Natalia sont particulièrement séduits par le jardin luxuriant dans lequel il s'imagine déjà y planter des cactus et y élever des poules. Mais pour Trotsky, l'étau se resserre. On l'informe rapidement que Staline a connaissance de sa récente installation au Mexique. Il décide donc de faire surprotéger sa maison. À l'entrée, qui donne sur la calle Morelos, se trouve un grand portail bordé de murs bâtis sur plus de 3 mètres de haut. Devant ce portail, 2 sentinelles protègent l'entrée et sont relayées la nuit tombée par 2 autres gardes. Les hauts murs de béton qui encerclent le jardin de la maison sont tous surmontés de postes de sécurité sur lesquels un garde est équipé d'une mitrailleuse. Pour passer le portail, il faut donner un code aux gardes que seul Léon, sa femme et 2 ou 3 proches du couple connaissent. Une fois à l'intérieur de la propriété, il faut sonner à la porte blindée. Elle est également surveillée 24 heures sur 24 par un garde. Bref, la Casa Trotsky est une forteresse qui semble impénétrable. Au sein même de Coyoacán, cette surprotection fait jaser. Une véritable armée entière pour protéger la vie d'un vieillard, Certains insinuent même que ce bunker a été mis en place pour se mettre en avant, se donner l'apparence d'un personnage important. Mais le vieux, lui, sait pertinemment que tout ça n'est pas exagéré. Staline le traque comme une bête. Sa tête est mise à prix et des tueurs sont à sa recherche partout sur le globe. Il doit redoubler d'attention un peu plus chaque jour. Cette haine qu'entretient Staline contre lui, il sait très bien d'où elle provient. Elle est le fruit de jalousie et de sentiments d'illégitimité. Trotsky a pendant plusieurs années préparé la révolution bolchévique d'octobre 1917 et il en a été l'un des acteurs principaux aux côtés de Lénine. À la mort de celui-ci, c'était tout naturellement lui qui aurait dû le suppléer et sûrement pas Staline, qui n'a toujours été qu'un second couteau méprisé par Trotsky et Lénine. Ce mépris, l'autocrate lui fait payer aujourd'hui. Les deux hommes se sont toujours détestés, mais la paranoïa de Staline l'a rendu encore plus déterminé. Le dictateur est persuadé qu'il faut éliminer toute existence quelconque de l'idéologie trotskiste. Ainsi, il a dans un premier temps fait déporter la sœur de Trotsky. Quelques semaines plus tard, lors des grandes purges staliniennes qui ont eu lieu dans les années 30, le dictateur a fait déporter le fils aîné de Trotsky ainsi que son gendre. Ayant perdu son premier fils, le vieux fait en sorte de prendre souvent des nouvelles de son cadet, Lev. Au milieu des années 30, ce dernier s'était installé à Paris pour s'intégrer au milieu trotskiste de la capitale française. Seulement, en octobre 1938, alors que Lev ressent des douleurs abdominales, il est conduit à la clinique Mirabeau, dans le 16e arrondissement. Il est immédiatement pris en charge par le directeur de la clinique, un certain Boris Guirmounski. Ce Guirmounski est en réalité un informateur que le NKVD s'est chargé de placer à un prestigieux poste. Guirmounski s'occupe lui-même de l'anesthésier pour procéder à une opération de l'appendicite. Alors que l'opération semble s'être déroulée normalement, le fils cadet de Trotsky est retrouvé le lendemain en train de divaguer dans sa chambre. Figurez-vous que l'anesthésiste s'était en réalité trompé et lui avait, par mégarde, injecté une dose trop forte. Lev Trotsky ne survivra pas à cette opération. Il mourra quelques jours plus tard à l'hôpital Mirabeau. Cette tragédie de la mort de ses enfants a, dans un premier temps, anéanti le vieux révolutionnaire, mais pas au point d'abandonner sa lutte pour renverser son rival et pour instaurer son grand projet, la 4e internationale communiste. Depuis sa forteresse dorée, le vieux sait qu'il vit probablement les derniers instants de sa riche existence. La preuve en est. Chaque matin, lorsqu'il se lève et qu'il prépare son petit déjeuner, il répète à Natalia « Eh ben tu vois, nous sommes toujours vivants. » Ce 20 août donc, il s'est une nouvelle fois réveillé en se félicitant d'être encore en vie. Il y a à peine 3 mois, Natalia et lui ont bien failli passer. Aux alentours de 4 heures du matin, alors que le couple était en train de dormir dans sa chambre, ils se sont fait réveiller par une explosion. Natalia a d'abord cru à un pétard avec lequel les gamins s'amusaient pour réveiller tout le quartier. Mais le vieux, qui a fait la guerre pendant plus de 20 ans de sa vie, sait, lui, reconnaître le bruit de la détonation d'une MP40. Ensuite, tout est allé très vite. La fenêtre de la chambre donnant sur le jardin vole en éclats et une rafale de balles percute le sol. Dans un réflexe in extremis, le vieux Léon a eu le temps d'attraper le bras de sa femme et de l'attirer hors du lit, par terre, côté mur opposé à la fenêtre. Ensuite, pendant 2 longues minutes, ils ont assisté à un balayage de la pièce par 3 fusils mitrailleurs. Au bout de ces 2 longues minutes de calvaire, les hommes s'en vont avec l'idée d'avoir accompli leur besogne. Mais miraculeusement, grâce aux réflexes de Trotsky, le couple a échappé à la mort. La jambe de Léon s'est faite effleurer par une balle, mais il en a connu d'autres, et quelques jours de repos lui permettront de se remettre sur pied. Il s'interroge principalement sur la facilité d'accès des tueurs à la fenêtre de sa chambre. Comment ont-ils fait pour passer tous les barrages de sécurité? Dans le doute et la crainte d'une trahison, il a fait remplacer toute son équipe de nuit par de nouvelles sentinelles qu'il a lui-même auditionnées. Cette nouvelle équipe est majoritairement constituée de sympathisants recrutés dans les groupuscules trotskistes de Mexico. Même si Natalia se réveille encore la nuit avec l'impression d'entendre des bruits de balles, elle sait que son mari est un dur à cuire et qu'il lui en faudra plus pour renoncer. Ni la déportation de l'entièreté de sa famille, ni la traque organisée par Staline depuis plus de 10 ans ne l'ont fait abdiquer. L'idéologie qu'il porte en lui et l'ambition qu'il a pour son pays sont plus fortes que la crainte de mourir. Et cela, sa femme le sait depuis toujours. Lorsqu'ils se sont rencontrés au début du siècle, Natalia a directement été impressionnée par la passion qui animait Léon. Elle voyait dans ce fils de paysan aisé d'origine ukrainienne une détermination sans pareille. Déjà alors qu'il avait à peine 24 ans, il lui faisait part de ses intentions pour la Russie. Renverser le régime autocratique des tsars qu'il jugeait injuste. Ce courage n'a cessé de déconcerter Natalia. Qu'un petit mathématicien à lunettes d'à peine 1,75 m ait été capable d'endurer les geôles du tsar, de soulever les foules et d'être le héros d'une révolution l'a toujours amusé. Oh, bien sûr. Elle s'est souvent plainte de cette vie constituée de fuites, d'appartements sous surveillance et de rafales de mitrailleuses. Probablement aurait-elle préféré la tranquillité d'une petite maison dans sa Russie natale, mais elle l'avait suivie par amour, par conviction, et elle avait toujours constitué son premier soutien.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte les dernières heures du révolutionnaire Léon Trotsky. Exilé à Mexico avec sa femme et poursuivi par des assassins mandatés par son ennemi de toujours, Staline, le bolchevique s'est installé avec sa femme dans une résidence surprotégée. Le couple passe donc le mois d'août 1940, cloîtré chez lui dans la peur d'une nouvelle tentative d'assassinat. En réalité, peu de personnes ont accès à l'intérieur de la maison en dehors de Léon et Natalia. Des gardes et des domestiques de confiance. Un couple d'amis des Trotsky et Sylvia Hagloff, la secrétaire de Léon. Cette dernière est une jeune américaine originaire de Brooklyn qui s'est très tôt rapprochée des milieux communistes new-yorkais. Lors d'un séjour de plusieurs mois à Paris pour le travail, elle a fait la connaissance de son époux, un mystérieux Belge répondant au nom de Jacques Mornard. Après quelques temps à Paris, le couple Hagloff-Mornard est parti s'installer à Mexico car Sylvia souffrait d'un problème au sinus qui nécessitait qu'elle réside dans un climat plus chaud. La jeune américaine, déjà proche des milieux communistes en Amérique, s'est petit à petit fait intégrer au réseau trotskiste à Mexico. Après quelques semaines, elle a fini par rencontrer le vieux et sa femme. Hagloff est une américaine sophistiquée qui, en dehors de l'anglais, maîtrise parfaitement le français et le russe, en plus de balbutier un peu d'espagnol. Elle plaît beaucoup au couple Trotsky, et elle ne tarde pas à devenir amie avec Natalia. C'est donc tout naturellement qu'au début de l'année 1940, Trotsky lui propose de devenir sa secrétaire. La jeune américaine, militante trotskiste depuis plusieurs années, voit cette proposition comme une opportunité inouïe. Elle devient petit à petit coutumière des après-midi à Calimorelos. Même après plusieurs mois comme secrétaire du vieux, Sylvia n'arrive pas encore à croire qu'elle a réussi à devenir intime avec l'homme qu'elle a toujours considéré comme son maître à penser. Il arrive encore, à la fin de certaines journées, qu'elle le remercie de l'avoir embauché, voire même qu'elle refuse, à la fin du mois, de se faire payer pour son travail administratif effectué. Natalia Trotsky voit en elle une fille adoptive pour Léon, anéantie par la mort de ses fils assassinés ou déportés dans les camps staliniens. La jeune Sylvia ne tarde donc pas à présenter à sa famille adoptive son compagnon, le silencieux Jacques Mornard. Au début, elle n'avait pas voulu le ramener à Calimorelos, de peur que le couple Trotsky y voie une familiarité trop importante. Mais Mornard avait insisté. Lui aussi, fervent militant d'une quatrième internationale trotskiste, voulait rencontrer leur idole commune. Sylvia et lui s'étaient justement rencontrés à Paris, quelques années plus tôt, à force de fréquenter les mêmes cercles d'amicales communistes. Très vite, la jeune femme a été séduite par ce grand escogriffe si cultivé. Mornard s'est présenté à elle comme un journaliste du soir, fils d'un riche diplomate bruxellois. Les deux amants entretiennent à Paris une idylle sur fond de militantisme clandestin. Les agents de Staline assassinant tout opposant au régime du dictateur, même en dehors de l'URSS. Mornard a tout fait pour rendre Sylvia folle de lui. Ah, il faut dire aussi que le journaliste est un bon parti. La jeune femme s'étonnant même parfois des ressources semblant illimitées de son amant alors que par ailleurs, elle ne le voit presque jamais travailler. Il lui a même proposé de traduire certains articles pour lui, la payant à chaque fois démesurément. Toujours est-il qu'à leur arrivée à Mexico, Jacques Mornard a immédiatement insisté pour qu'il s'installe dans le quartier de Coyoacán, qu'il trouvait calme, bien situé. Il dépose donc 3 à 4 fois par semaine Sylvia devant la maison des Trotsky et revient la chercher à la fin de la journée quand le vieux n'a plus besoin d'elle. C'est à cette occasion que le Belge a rencontré un couple d'amis français de Léon et Natalia Trotsky qui étaient de passage à Mexico. Très vite, Mornard a sympathisé avec eux, le couple souhaitant effectuer un peu de tourisme. Mais n'ayant pas de moyens de locomotion, il leur a proposé de les conduire pendant les journées de travail de Léon. Le compagnon de Sylvia commence donc petit à petit à s'attirer les faveurs des membres de la maison de la Calimorelos, servant de guide aux amis et proposant régulièrement de prêter sa splendide Buick Riviera pour aller faire des commissions. Il faut dire que ce dernier maîtrise parfaitement l'espagnol, à vrai dire. Le couple d'amis français a même détecté un brin d'accent espagnol lorsqu'il s'exprime avec eux dans la langue de Molière. L'accent belge a donc bien des subtilités, s'était-il dit. À force de rendre des services, Natalia s'est sentie obligée de l'inviter à boire le thé. C'est donc à cette occasion qu'il a pu faire la connaissance des Trotsky. Il s'est tout de suite montré révérencieux envers le vieux, lui expliquant que son admiration pour son idéologie révolutionnaire n'avait pas d'égal. Léon est plutôt séduit par ce grand et bel homme silencieux qui le fixe droit dans les yeux quand il lui parle. Mornard ne se fait donc pas prier pour demander au vieux s'il accepterait qu'il écrive une double page sur lui pour la presse belge. Il souhaiterait revenir sur la vie du révolutionnaire ainsi que sur ses activités au Mexique. Trotsky accepte, mais en posant une condition. Qu'il ait un droit de regard sur l'article et qu'il puisse le relire avant publication. C'est donc tout naturellement qu'on a commencé à voir de plus en plus Jacques Mornard à Calimorelos. Le journaliste s'y rendant certaines après-midi pour s'entretenir avec le vieux au sujet de son article. Léon se rend rapidement compte qu'il va devoir mettre son nez dans la rédaction du papier tant le style du jeune Belge laisse à désirer. Il multiplie les approximations sur la révolution de 1917 et semble ne connaître qu'à moitié les grands concepts de la doctrine trotskiste. Natalia, elle, se méfie du journaliste. Elle le trouve taciturne et n'aime pas sa façon de tresser les couronnes à son mari du matin au soir. Un jour avant de se coucher, elle a même fait part de son inquiétude à Léon. « Oh, tu sais, ma chère Natalia, aujourd'hui je dois méfier de tout le monde, en dehors de toi, n'importe qui, n'importe quelle personne en qui je pensais avoir une totale confiance pourrait venir chez moi pour me tuer. » Ces craintes, vous vous en doutiez peut-être, ne sont pas tout à fait infondées. Jacques Mornard est loin d'être celui qu'on pense. Ce dernier ne s'appelle d'ailleurs pas Jacques Mornard, mais Ramon Mercader. Et il n'est pas belge, il est espagnol. Mercader est en réalité un agent stalinien engagé pour assassiner Trotsky. Ramon Mercader, né à Barcelone en 1913, issu d'une famille communiste. Il s'investit naturellement dans la guerre civile espagnole en 1936 et devient soldat de l'armée républicaine contre le camp nationaliste de Franco. C'est à cette période qu'il rencontre des membres des services secrets staliniens alors présents sur place. Tout de suite, le jeune catalan leur plaît. Il est vigoureux, n'a peur de rien et, surtout, semble prêt à tout pour servir l'idéologie communiste dans laquelle il baigne depuis son enfance. Et puis de plus, il est très cultivé et s'exprime en plusieurs langues dans un vocabulaire soutenu. Les services secrets russes, le NKVD, le convoquent alors pour lui proposer une mission. Cette mission, c'est d'accomplir l'obsession du dictateur Staline depuis plusieurs années. Assassiner son ennemi de toujours, Trotsky. Le NKVD met tout en place pour convaincre Mercader. A commencer par lui proposer un contrat à plusieurs chiffres. Oh, c'est pas l'argent qui motive le jeune Espagnol, mais plutôt la gloire, s'il réussit. Il deviendra le héros de toute une nation et sera décoré de l'ordre du mérite du régime socialiste des mains de Staline lui-même. Mais la mission est loin d'être aisée. Pour cela, il doit trouver un moyen de se rapprocher du vieux révolutionnaire. Le NKVD s'intéresse déjà depuis plusieurs années à Sylvia Hageloff et sait que la jeune américaine part pour quelques semaines à Paris. Mercader, qui maîtrise déjà le français et un peu d'anglais, y est envoyé avec un objectif fondamental. Séduire la jeune femme afin de devenir son amant. Les services secrets staliniens lui donne pour ça des ressources illimitées qui permettront à Mercader de mener un train de vie fastueux. On lui génère un nouveau passeport belge et une identité, Jacques Mornard, 33 ans. Le NKVD se dit que ni Hageloff ni Trotsky ne se méfieront d'un journaliste issu d'un pays neutre dont les intérêts à soutenir Staline étant très faibles. Et puis la suite, vous la connaissez, en partie. Hageloff et Mornard commencent à mener leur idylle parisienne pendant que, dans le même temps, l'agent espagnol rend un rapport hebdomadaire au NKVD. Hageloff décide alors de rester à Paris et le couple s'installe ensemble. Après 2 ans de liaison, le NKVD, apprenant l'installation de Trotsky au Mexique, lance la deuxième étape de l'opération. Sylvia Hageloff reçoit alors une fausse lettre de son médecin français lui indiquant que certains examens de ses sinus ne sont pas bons. Il lui explique que le climat froid et humide parisien pourrait engendrer chez elle une sinusite subaiguë, maladie dont on n'était pas en mesure d'opérer à cette époque. Sylvia, sur les conseils de son médecin, se décide alors à quitter la France pour s'établir dans un pays au climat tempéré. Mornard, qui sait alors que sa cible s'est installée au Mexique, lui propose d'acheter une maison à Mexico. Et la jeune femme, candide, amoureuse, est séduite par l'idée.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous retraçons les derniers jours de Léon Trotsky, révolutionnaire russe exilé au Mexique et traqué par les services secrets staliniens. Un tueur espagnol engagé par le NKVD a réussi à avoir accès à la maison du soviet en se faisant passer pour un journaliste belge nommé Mornard qui a le projet d'écrire un article sur lui. Voilà donc plus de deux semaines que Mornard se rend une à deux fois par semaine à Calle Morelos. Il passe en moyenne une petite heure dans le bureau de Léon et les deux travaille l'article que le journaliste veut écrire sur le révolutionnaire. Trotsky est obligé de repasser sur la plupart des phrases qu'il juge approximatives. À force, il a fini par se faire au caractère du jeune Belge qui accepte, sans trop de problèmes, les jugements émis sur son travail. Son article commence d'ailleurs à toucher à sa fin. Ce 20 août 1940, donc, aux alentours de 17h30, Léon attendait Mornard chez lui. Comme tous les jours, il s'était réveillé à 6h et il avait travaillé toute la matinée jusqu'au déjeuner. Après avoir mangé, il s'était attribué 2 heures de sieste, tant la chaleur écrasante de ce mois d'août freinait sa concentration. Il avait ensuite envoyé quelques courriers avant de rejoindre Natalia dans le jardin qui était en train de s'occuper des poules et des lapins. La sécheresse du mois d'août avait fait particulièrement souffrir le jardin des Trotsky et Natalia s'échinait depuis plusieurs jours à tenter de le remettre d'aplomb. Ce jardin, c'était la bouffée d'air de Natalia au milieu de l'environnement anxiogène qui régnait et des menaces qui planaient sur son mari. Elle avait réussi à donner à cet espace des airs de jardin exotique, regorgeant de plantes rares qui ne poussaient que dans un certain type de climat. Les poules leur fournissaient chaque jour une dizaine d'œufs, tandis qu'ils tuaient un lapin par mois et le donnaient à la cuisinière pour qu'elle leur fasse un ragoût russe dont Léon raffolait. C'est aux alentours de 17h que le journaliste belge avait fait irruption dans le jardin. Depuis quelques jours, Léon lui avait communiqué le mot de passe à donner aux gardes pour entrer dans la propriété. Il n'avait donc plus besoin de se faire annoncer. De plus, Sylvia Hagloff était en congé pour la semaine. Le journaliste venait tout seul. La première chose que repère Natalia en voyant ce grand brun s'avancer vers eux, c'est le long trench coat beige qui lui arrive jusqu'aux chevilles. « Eh bien, Mornard, vous ne crevez pas de chaud sur votre imperméable ?» « Ça fait au moins 35 degrés !» lui lance-t-elle pendant qu'il s'approche d'eux. J'ai entendu à la radio qu'il allait probablement pleuvoir vers 19h. Lui répond Mornard d'un ton calme, monotone. Léon, agenouillé dans la terre, en train de retirer des mauvaises herbes qui empiètent sur les racines de son avocatier, relève la tête pour alpaguer Mornard. « Allez, perdons pas de temps. Allons directement à mon bureau finaliser votre papier. » « Faudrait pas me coucher trop tard ce soir. » Sans broncher, son interlocuteur suit Trotsky jusqu'à l'intérieur de la maison. Natalia regarde les deux hommes s'éloigner pendant qu'elle reste dans le jardin. Trotsky et Mornard s'installent dans le bureau de Léon. Le journaliste a ramené l'ultime mouture de son article qu'il a retravaillé depuis leur dernière entrevue. Celle-ci devrait être la version finale une fois les corrections du vieux intégrées. Léon est assis à son bureau, tandis que Mornard se tient debout, derrière lui, gardant un œil sur le papier que Trotsky est en train de relire. Il a gardé son grand imperméable. Mornard semble mal à l'aise. Il respire fort, transpire à grosses gouttes et tangue d'une jambe à l'autre. « Vous allez bien, mon grand ?» lui demande Trotsky sans se retourner, dérangé par les râles du journaliste derrière lui. « Enfin, enlevez votre manteau, vous semblez étouffé. » Mornard reste muet. Il sait que c'est le moment pour agir. Il déboutonne doucement son imperméable et en sort un pic à glace, dont il a raccourci le manche afin qu'il tienne sous sa gabardine. Il avait bien pensé à tirer sur le vieux avec un pistolet, mais il s'était dit que le bruit de la détonation aurait pu attirer l'attention des gardes et compliquer sa fuite. Le piolet, il savait l'utiliser. Il avait appris en Russie à briser un bloc de glace en deux coups. Ce Piolessi, il l'avait trouvé dans la remise de la maison des Trotsky quelques jours plus tôt. Il l'avait alors planqué dans sa gibecière et l'avait ramené chez lui. Le vieux, toujours hypnotisé par la relecture de l'article, ne s'aperçoit pas que l'agent stalinien se prépare à l'assommer. Lentement, Bornard lève le piolet qu'il tient au bout de son bras et frappe de toutes ses forces le haut du crâne de Trotsky. Le pic à glace s'enfonce de 70 cm dans la tête du vieux et un flot de sang jaillit sur l'imperméable de l'assassin. Il s'écoule alors une seconde avant que le bolchevique pousse un hurlement déchirant. Bornard, qui pensait le tuer en un coup, s'y est en réalité mal pris. Il a frappé Trotsky avec la partie plate et large du piolet et non du côté du pic incurvé. Le vieux, dans un élan de survie, a le temps de se retourner comme un combattant et d'attraper la main gauche de Bornard, la droite tenant encore le manche du piolet. Gravement blessé, le sang ruisselant de sa tête, il emploie ses dernières forces pour mordre cette main de toutes ses forces, lui enfonçant ses dents jusqu'à l'os en hurlant pour sauver sa vie et empêcher l'assassin de lui asséner le second coup fatal. En face de lui, Bornard, le visage fantomatique, lâche alors le piolet par terre, se retourne et court vers la porte du bureau. Mais les hurlements de Trotsky ont immédiatement attiré l'attention de Natalia et des sentinelles qui gardent la maison. Aussitôt, le chef de la patrouille de garde se précipite avec ses hommes dans le bureau de Léon. Les quatre gardes se jettent sur Jacques Bornard et l'immobilisent en quelques secondes au sol. Trotsky s'effondre dans les bras de Natalia, du sang dégoulinant sur le visage. Dans la maison, c'est un vacarme total. Les domestiques crient, terrorisés par la vision d'horreur du vieux bolchevique sanguinolent dans le bureau. Les gardes tentent de maîtriser Bornard, qui se débat tant bien que mal, tandis que Natalia hurle de toutes ses forces qu'on aille chercher de quoi éponger le sang et surtout qu'on emmène son mari à l'hôpital immédiatement. Le vieux, lui, est étonnamment calme. Agonisant, il utilise ce qui lui reste de vigueur pour dévisager son amour de toujours. « Natalia, Natalia, je t'aime », lui dit-il. Puis, avec une forme de fierté sur le visage, il rajoute « Il ne faut pas qu'il le tue, il faut qu'il parle ». Quelques minutes plus tard, la rue est bloquée par les gardes de la maison afin que la police de Mexico ainsi que les secours puissent intervenir en urgence. Léon est accompagné dans l'ambulance par sa femme et le chef de sa garde. Il perd petit à petit connaissance et sa parole devient diffuse. « Reste avec moi, mais reste avec nous, je t'en prie !» lui supplie sa femme, lui tenant la main en pleurant pendant que l'ambulance dévale à toute vitesse les rues désertes de Coyoacán. Une fois à l'hôpital, il est transporté en urgence au bloc opératoire. Le médecin-chef ordonne à son équipe qu'on le déshabille. À moitié inconscient, le vieux bolchevique lance alors un dernier cri. « Non, pas question, il n'y a que ma femme qui puisse me déshabiller !» Natalia s'approche alors lentement de son mari et lui déboutonne sa chemise. Elle l'observe une dernière fois. Elle le trouve beau, même avec le visage taché de sang et le crâne déformé par le trou du piolet. Elle se penche alors vers lui et l'embrasse tendrement. Léon, perdant conscience peu à peu, lui prend la tête pour lui chuchoter à l'oreille. J'ai confiance dans le triomphe de la 4e internationale. En avant, murmure-t-il dans un dernier souffle. Après une longue nuit d'agonie, le vieux révolutionnaire succombera à ses blessures à l'hôpital de Mexico. C'est seulement quelques jours plus tard, pendant le déroulé de l'enquête, que l'on apprendra la réelle identité de Jacques Bornard. Les enquêteurs appellent l'ambassade belge qui fournit les registres de ses ressortissants sur laquelle le nom de Mornar n'apparaît jamais. On découvre également que l'adresse inscrite sur son passeport belge, Chaussée de Wavre 271 à Bruxelles, est en réalité l'adresse d'un grand magasin existant à cet emplacement depuis 50 ans. Alors, qui est-il ? Et surtout, qui l'a mandaté ? En réalité, il faudra presque 15 ans pour éclaircir ce mystère. L'assassin de Trotsky est dans un premier temps condamné à 20 ans de prison ferme. C'est lorsqu'il est décoré par Staline de l'ordre du mérite, alors même qu'il est encore en prison, que les enquêteurs font le lien et découvrent sa véritable identité. Ramon Mercader. Durant ses 20 années de détention, Mercader ne reçoit que peu de visites. Il rentre rapidement dans les réseaux staliniens de la prison de Mexico, ce qui lui permet d'obtenir quelques privilèges. Après 7 ans d'enfermement, il rencontre Roquelia, une jeune Mexicaine condamnée pour recel. La jeune femme lui plaît beaucoup et il ne faudra que quelques mois pour que les deux prisonniers se marient en prison. À leur sortie, en 1960, ils se rendront ensemble en Russie, où l'assassin de Trotsky sera rebaptisé Ramon Ivanovitch Lopez. Après quelques années en URSS, incommodé par le froid, le couple déménagera pour Cuba, où Ramon mourra d'un cancer des os en 1978. C'est ainsi que s'achève donc le récit des derniers jours de Léon Trotsky, éternel roi sans couronne des révolutions russes, qui n'aura jamais réussi à mettre en place sa quatrième internationale. Mais près de 80 ans après sa mort, son idéologie persiste et de nombreux mouvements communistes se revendiquent encore du vieux révolutionnaire. Voilà pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Jules-Adam Mindras.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.